Implication réelle de la pensée créatrice, article paru le 16 mai 2012. Connaissant maintenant un peu mieux les rudiments de la loi de l'attraction, nous allons voir quels en sont les prolongements dans notre quotidien, et tout particulièrement dans notre cité et être-té. En effet, on rattache cette loi à l'aspect de remplir ses désirs, mais ceci n'est que la surface apparente des choses, soit 3% au mieux. Je vous propose donc d'aller voir du côté des 97% restants, apparemment jamais utilisés. Et oui, c'est surtout quand on n'y pense pas que cette loi déroule son principe et se voit souvent appelée au point de construire votre réalité dans quasiment sa totalité. Elle s'applique tellement partout qu'il est même impossible de ne pas la voir en action, puisque la loi d'attraction est identique dans sa nature physique, l'aspect magnétique, que la source elle-même, puisqu'en fait, c'est sa partie matérielle. En effet, vouloir qu'un de ses désirs se réalise n'est en fait que faire appel à l'immense réservoir de la source afin qu'il se concrétise matériellement parlant. Dit autrement, la loi de l'attraction est le langage de la source, et nous, en tant que préhumains, nous découvrons dans notre démarche d'évolution consciente le comment ça marche de l'univers. Ceci explique que nous ne l'utilisons consciemment que très peu, car nous savons tous que nous sommes coupés justement de la source et qu'il nous faut franchir le premier voile de l'oubli. Je sais que vous n'aviez jamais fait la relation entre la loi de l'attraction et le voile de l'oubli, mais pourtant, c'est la clé même de l'accès à la puissance de la création et donc de la co-création consciente en tant que un incarné. Vu sous cet angle, on est donc très loin de l'assouvissement du petit désir égotique tant attendu. C'est à l'image du nouveau-né qui passe du stade couché sur le dos au stade à plat ventre et qui commence à gesticuler. Ça commence à pousser sur les jambes, mais comme les bras sont encore trop faibles, le petit-haut joue plutôt du bulldozer et se retrouve finalement toujours la tête touchant le haut du lit. Ce n'est qu'ensuite que la dite chenille est mise en dehors du lit à barreaux et essaiera d'aller dans une direction pour aller voir un truc qui l'intrigue, et donc commence à y mettre son bordel. La langue va de gauche à droite et réciproquement en fonction des efforts faits et démontre que ce machin en mouvement a une connerie en tête et qu'il faudrait bien que ça se fasse. Ainsi, avec un petit peu de pratique, les bras avant commenceront à se fortifier, faisant de sorte que l'on aura affaire avec un petit quadrupède pouvant étendre dangereusement son rayon d'action afin d'aller faire encore plus de bêtises. En clair, jouer de la loi de l'attraction, ça commence par une envie, un désir d'exploration, de voir certains trucs se concrétiser. Par exemple, je vise la porte de sortie pour voir ce qui se passe dehors. C'est de la curiosité pure. Pour continuer par « je vise le placard à boutons, à bonbons, parce que je sais que c'est du bon et que je vais pouvoir me goinfrer. » Donc, déjà tout petit, nous mettons la loi de l'attraction en œuvre par impulsion naturelle et progressivement viendra s'y rajouter un désir, puis ensuite une volonté dirigée inconsciente et enfin un besoin égotique conscient mû par la volonté. Petit bout de chou en viendra donc à viser une chaise pour se verticaliser et marcher encore plus vite vers l'objectif visé. Ainsi, l'apprentissage de la marche est strictement identique à l'apprentissage de la matérialisation par la loi de l'attraction. Lorsque quelqu'un vous dit que ce désir ne se réalise pas ou quasiment pas, c'est qu'il est encore au stade de la grenouille rampante où le derrière est nettement plus haut que la tête. En effet, pour devenir co-créateur conscient, il nous faut commencer par apprendre à ramper avec fluidité. Entre parenthèses, je co-crée un petit bonheur au petit bonheur la chance, d'où d'inévitables gamelles qui nous font bouffer de la moquette régulièrement. Soit, toutes nos demandes ne sont pas exaucées. Cela faisant, les bras se muscleront et éviteront ainsi de goûter un peu moins la moquette, d'où un taux de succès de plus en plus grand dans nos excursions co-créatrices. En effet, les bras sont, je le rappelle, situés entre le chakra du cœur et le thymus, et le chakra de la gorge, la création par le verbe. Il est donc tout à fait naturel qu'au début de l'apprentissage, les bras, ou la capacité de co-création consciente, soient si faibles, voire inopérants, quand on n'y met pas du cœur, et donc de la vibration. Ainsi, la co-création commence par le deuxième chakra, j'ai faim, où je veux me remplir le ventre avec des trucs que j'aime, ce qui donnera l'impulsion. Ça passe au troisième chakra, la volonté mentale ou désir conscient, qui se dit qu'il va falloir mettre les jambes en route soit le premier chakra. On pousse d'autant plus fort que c'est urgent, d'où précipitation, maladresse, énervement et impatience. Puis ça passe par le quatrième chakra, j'y mets du cœur, et je me vois déjà en train de sucer le bonbon, égal, je le vibre comme si c'était déjà fait. On voit donc que plus un individu s'éloigne de son cœur, et moins il a de chances de co-créer ce qu'il veut. C'est là toute la différence entre un bambin qui s'imagine avec la sucette dans le bec et l'ado ou l'adulte qui se dit que ce sera plus dur que prévu. Le petiot ne se pose pas de questions et a de grandes chances de réussite. Virtuellement, parce que le corps, il ne suit pas toujours. Alors que l'ado ou l'adulte, bien le corps soit opérationnel, se met des tas de freins mentaux l'empêchant de croire suffisamment dans ses chances de réussite. C'est donc là qu'intervient le voile de l'oubli coincé entre le troisième et le quatrième chakra, entre le mental conscient et le cœur, entre la pensée mentale et la vibration. Or, les bras ou ustensiles de la création, de la réalisation matérielle se trouvent entre le quatrième et cinquième chakra, c'est-à-dire entre le moteur de l'humain, chakra 3-4, et le moteur du ciel, chakra 5-6. Or, que faisons-nous actuellement, sinon passer de la 3D à la 4D? Et donc d'être en contact avec les bras de la co-création consciente. C'est pour cela que je vous ai dit, dans l'article précédent, que c'est dans cette période vibratoire de la 4D que nous nous devons d'apprendre à devenir responsables de nos co-créations avant de passer en 5D, soit le chakra du créateur conscient et totalement responsable de tout ce qui se passe au-dessous d'une manière plus ou moins inconsciente. Dit autrement, autant le petiot est faiblard des bras, et autant il est handicapé dans la réalisation de ses futures bêtises. Mais s'il développe suffisamment ses bras, son rayon d'action va devenir énorme, au point qu'il accédera à la première chaise venue pour se redresser, regarder le monde à une hauteur respectable, et viser encore plus loin pour faire des conneries encore plus balèzes, parce qu'il apprendra à marcher. Marcher couramment viendra à dire qu'il aura atteint le stade de la 7D, où il pourra apparemment apparaître et disparaître matériellement tout ce qu'il veut, y compris son propre corps d'incarnation. Ainsi, l'accès à la 4D nécessite de passer le premier voile de l'oubli, et donc de devenir totalement conscient de la loi de l'attraction et de ses implications réelles dans notre icité et être-té. En effet, je vous l'ai toujours dit et répété, s'il n'y a plus de plombiers, maçons et autres corps de métier en 5D, c'est parce que précisément nous saurons co-créer d'abord tout ce qui touche à l'aspect matériel, moteur de la terre, soit le minéral et le végétal. Il est donc bien question de devenir un dieu qui, par son esprit, fera apparaître ou disparaître ce qu'il veut. Voilà pourquoi je vous disais que l'aspect d'un désir de 3D n'a rien à voir avec l'aspect vibratoire d'un désir de 4D et que les objectifs visés ne sont pas du tout les mêmes. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous devons passer du désir mentalo-égotique au désir susurré par notre soi supérieur ou âme. Le premier est en dessous de la ligne de l'oubli, c'est-à-dire celui de l'ignorance, alors que le second est au-dessus, c'est-à-dire j'ai pris connaissance de la loi de l'un. L'impact en notre monde est donc directement proportionnel à notre niveau de conscience ainsi qu'à notre niveau vibratoire. Vous pouvez donc comprendre ou ressentir dès maintenant qu'individuellement, nous sommes vraiment l'auteur de notre réalité. En vision 3D, on en est globalement inconscient et on refuse le fait pour cause de karma, contrat de vie, événements aléatoires et autrui, donc probablement des choses extérieures à nous et à notre mental conscient. Alors qu'en 4D, on commence à percevoir que notre propre vibration, ayant donc un lien direct avec notre niveau de conscience moyen, fabrique notre propre réalité véritablement. Mettez 7 milliards de trucs comme ça ensemble sur une petite boule qui tourne et ça vous fabrique une mayonnaise collective correspondant exactement au niveau de conscience de l'humanité. Ce n'est donc pas en voulant changer les autres par l'extérieur que nous réussirons à améliorer le sort collectif. Ça, c'est une vision 3D, une vision mue par l'ignorance de la loi de l'attraction, mais par le changement individuel intérieur, vibratoire et unitaire. Voici la raison pour laquelle la loi de l'un est incontournable en 4D, car elle permet à tous de regarder dans la même direction, celle du cœur, celle du pardon, celle de la compassion, celle de la vibration unitaire, avec les mêmes règles, les mêmes objectifs pour le collectif, tout en respectant l'individuel. On passe donc de la compréhension de la loi de l'attraction du style « je veux gagner au loto pour m'acheter des tas de trucs » ou « on veut forcer l'aléatoire » car on pense que la chance et le hasard existent. A. Je veux recevoir ce qui m'est dû, car je sais que le hasard ou la chance n'existent pas, puisque je suis l'un incarné et que je peux commander tout ce que je veux. Comme vous le voyez, on change vraiment de mode, de monde, car il va falloir changer radicalement de point de vue. Il va falloir passer du stade de l'ignorant au stade de celui qui sait et accepte car il aura compris et cerné qu'il est le créateur lui-même en action, grâce à l'utilisation consciente et responsable de la loi de l'attraction. Ainsi, au début de cet article, je parlais de 3% et 97%. En fait, cela veut dire 3% d'utilisation consciente de la loi de l'attraction et 97% d'utilisation inconsciente. Mais aussi, on peut dire 3% d'utilisation en 3D. Je veux ceci, alors j'y pense et le vibre autant que je peux pour que ça se réalise, mais j'y crois pas trop. Laissant ainsi 97% de boulot à faire quand on sera en 4D. On a donc du taf. Commençons donc par virer les questions pièges d'une 3D photocopiée en 4D du style « Si je désire la paix dans le monde, pourquoi la loi d'attraction ne le fait-elle pas ?» Vous pouvez y rajouter la faim dans le monde, l'arrêt des atrocités sur les animaux, l'enfermement de tous les criminels, etc. Voyez-vous où est l'illogisme qui fait que ce n'est pas possible? C'est simple comme réponse. Mais pour cela, il faut vous placer en orbite et regarder ce que cela donnerait. En effet, si un individu pouvait contraindre la planète entière, cela entraînerait l'effet suivant. 1. Il faudrait que son désir et sa vibration soient si puissants que globalement son corps physique serait tout simplement incapable de tenir la charge. Si tu es un archange, tu aurais peut-être le calibrage suffisant, mais si tu es un préhumain, c'est évident que la quantité d'énergie qu'il faudrait attirer ne pourrait être contenue par notre véhicule. Ça serait comme vouloir tirer une rame de TGV arrêtée avec ton VTT. Le résultat est donc plus que prévisible. Mais si des millions de VTT se regroupent, alors effectivement, le train va bouger. Mais pour cela, il va falloir coordonner tout ça, d'où la nécessité de la loi de l'un. 2. Si un individu pouvait le faire, cela voudrait dire qu'une personne pourrait imposer sa volonté à 7 milliards d'individus. On appelle ça un dictateur, tout simplement. 3. Ça pose donc un sérieux problème d'éthique et surtout une entorse totale à la loi de l'un, puisque l'on outrepasserait le respect de l'unicité de chacun qui a pour objectif justement d'expérimenter son unicité. En résumé, la loi d'attraction ne fonctionne qu'au niveau de chacun et ce n'est que la somme des chacuns qui fabrique un collectif. On ne peut donc changer un collectif qu'en commençant par se changer soi-même et espérer que les autres iront dans le même sens que vous. Tout en sachant que les bestiaux prévus pour vivre la nuit dans une lumière très faible ne seront pas forcément d'accord pour aller se faire bronzer à midi en plein soleil. Il y a donc forcément un tri, une sélection naturelle, selon la vibration de chacun. Et elle sera faite non par des mental ego spirituels ou quelque chose, mais par la loi d'attraction directement. Qui se ressemblera vibratoirement s'assemblera, faisant ainsi que les vibrations rouges seront avec les rouges, les oranges avec les oranges, et ainsi de suite. Je dis cela car une petite chose m'énerve quand je vois des gens s'inquiéter pour le sort des autres en termes d'ascension. En effet, si votre vibration est bleue, pourquoi voulez-vous que ceux des autres couleurs deviennent bleus? Qu'est-ce qui vous pousse à croire qu'ils vont mourir s'ils n'ascensionnent pas? De toute façon, on va tous y passer. Alors, où est le problème, sinon que de mettre en évidence une peur profonde liée à une croyance de la vie malheureusement dépassée. En effet, l'âme est immortelle, alors personne ne va mourir. Il n'y aura que changement de véhicule, comme lors de toute incarnation. La seule différence, c'est que certains fonction de leur couleur vibration, continueront à s'incarner dans un corps carboné, alors que d'autres iront dans un corps silicé. C'est comme dire, on continue à s'incarner dans du diesel, alors que d'autres auront une voiture électrique. Vous savez la différence entre les deux. La première fait du bruit et pollue, tandis que la seconde est silencieuse et non polluante. Car par exemple, elle se recharge avec le soleil ou une petite éolienne située au-dessus du garage. Alors, allez-vous imposer de l'électrique à celui qui veut entendre le bruit d'un gros V8 dans la carlingue mentale? Ainsi, la peur liée à ce que les autres n'ascensionnent pas est liée à la peur de la mort physique, version 3D, et marque aussi le fait de l'ignorance de la mise en œuvre de la loi de l'un, dont la loi d'attraction est pleinement comprise. On reçoit selon sa vibration, dont tout est parfaitement parfait, puisque c'est la meilleure de toutes les justices possibles, parce que justement, il n'y a aucun jugement, mais plutôt un amour inconditionnel total, puisqu'il n'y a justement aucune condition. Le ver rejoindra les vers, elle sera parfaitement en osmose, en parfaite syntonie, en parfaite synchronicité, et donc rentrera en résonance à des niveaux insoupçonnés. Alors pourquoi se faire du souci et croire que le vert doit venir avec les bleus où il sera pas en accord sur toutes les lignes, Il souffrira, alors que s'il est avec les verts, il sera aux anges. Faites de même avec toutes les couleurs, et n'allez pas imaginer votre désir que tous les préhumains veulent la même chose que vous. Pensez-vous que l'on puisse convertir un banquier crapuleux à devenir un compassionnel fauché, vivant au jour le jour son icité, et donc sans aucune sécurité contre son gré? Parce que vous pensez que c'est bon pour lui? Allez, arrêtez de vouloir changer le monde en imposant vos vues mentales, quitte à utiliser les process de l'un comme la loi d'attraction. Tout cela s'appelle de la magie. Et la différence entre la blanche et la noire, c'est que la noire, c'est pour imposer aux autres, alors que la blanche, c'est pour vous l'imposer à vous-même. Dans le premier cas, la noire, vous êtes en pleine 3D, le mentalo-égotique, le normatif, la domination, alors que dans le second, la blanche, vous êtes en 4D, l'amour inconditionnel, le non-jugement et le respect de l'unicité. Alors ne perdez pas du temps et de l'énergie à vouloir utiliser la loi d'attraction au niveau collectif et concentrez-vous uniquement sur vos désirs, sur vos besoins individuels. Vous voulez la paix? Alors soyez en paix en attirant la paix à vous. Je dis bien attirer la paix et non pas attirer la non-guerre. Commencez donc par ne pas appeler l'opposé de ce que vous voulez pour faire que ça marche vraiment. Ensuite, pour la suite du comment utiliser finement et encore plus pleinement la loi d'attraction, les 97%, je vous donne rendez-vous dans le prochain article.